Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h35, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour François Molins.
Bonjour.
Vous êtes procureur de la République de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation tout à fait particulière puisque vous êtes avec nous aujourd'hui jusqu'à 8h et nous vous interrogeons avec Elisabeth Martichoux.
Bonjour François Molins.
Bonjour.
Merci en effet d'être avec nous. Vous avez prononcé hier à l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Paris votre dernier discours à la tête du parquet de Paris. Parquet qui s'apprête d'ailleurs à quitter le palais de justice, on y reviendra tout à l'heure, tout ça a de l'importance évidemment aussi pour le travail des enquêteurs. Mais d'abord, évidemment, les dernières informations concernant la menace terroriste sur la France. On a appris samedi soir l'arrestation dans le Gard d'un homme de 33 ans, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il avait prêté allégeance au groupe État islamique. Il projetait un attentat. Vous avez des éléments qui prouvent qu'il allait passer à l'acte?
On a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser que quelque chose se préparait. Et ça illustre bien, finalement, l'un des aspects de la menace qui pèse aujourd'hui sur nous, où on avait dans le passé une grosse menace exogène qui venait de l'étranger. On est confronté aujourd'hui à une menace qui a muté, qui vient de l'intérieur, et qui est le fait de gens qui soit ne sont pas connus des services de renseignement, soit ont été empêchés de partir en Syrie ou en Irak, compte tenu des dispositifs mis en charge. Et ça illustre donc bien, effectivement, le fait que, comme il n'y a plus aujourd'hui quasiment, puisqu'elles sont taries, de filières d'acheminement de terroristes en Irak et en Syrie, ces personnes sont effectivement davantage tentées de passer à l'acte de leur propre initiative sur notre territoire national.
Il n'était pas allé ni en Syrie, ni en Irak, et il n'était pas connu des services de police. Voilà. Il a été repéré comment ?
Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails.
Par les réseaux sociaux.
Oui, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça fait partie.
Par les réseaux sociaux, vous venez nous dire oui.
Ça fait partie de la qualité des services de la qualité du travail des services de renseignement qui effectivement suivent tout ça et essaient d'obtenir un maximum d'informations.
Mais il avait des contacts avec l'État islamique néanmoins ?
Je ne veux pas répondre à cette question.
Et vous faisiez illusion d'ailleurs aux difficultés de recrutement aujourd'hui d'une organisation déchue sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il n'y a plus de combattants qui quittent la France, qui essayent de quitter la France pour aller dans la zone irako-syrienne ?
Il y en a toujours qui essayent, mais il y en a beaucoup moins dans la mesure où on assiste à un phénomène de délitement du califat. Compte tenu de la situation militaire en Irak et en Syrie, il n'y a plus grand monde effectivement qui a besoin ou envie de rejoindre Daesh en Irak ou en Syrie. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Daesh a aujourd'hui des mots d'ordre qui consistent à dire ne venez pas nous rejoindre, restez chez vous et commettez des actions terroristes chez vous sur vos territoires nationaux.
Vous avez répondu à la question, il n'avait pas de contact avec l'État islamique, il avait prêté allégeance, il avait enregistrer des vidéos avec un drapeau noir. Enfin, il y avait toute, évidemment, la théâtralisation. Mmh. Cet homme était dangereux ?
Je pense que oui. Je pense que oui et qu'on est clairement, comme dans d'autres cas qu'on a eu à traiter dans le passé, face à ce qu'on pourrait qualifier de projet d'attentat déjoué. Mmh.
C'est le premier attentat déjoué de l'année. Est-ce qu'il y a un avant et un après Daesh en France ?
Je pense que le règlement de la situation sur le plan militaire ne réglera pas les choses. D'abord, il y a un contexte politique qui est compliqué, qui risque de perdurer. Et puis, ça n'est pas parce que Daesh va tomber en Irak et en Syrie que la situation sera réglée. Daesh continue à vivre dans d'autres zones géographiques, en Afrique notamment.
Est-ce que pour autant vous diriez aujourd'hui que la menace est moins forte ?
Non, je dirais absolument pas que la menace est moins forte. Je pense que la menace reste à un niveau très élevé, mais que simplement elle a changé de physionomie. Elle est peut-être plus diffuse, peut-être plus difficile à cerner, dans la mesure effectivement où elle se produit chez nous et où elle peut être le fait de gens qui ne sont pas toujours connus des services de renseignement. Et c'est ça qui signe bien la difficulté du travail de ces services, qui consiste effectivement à devoir repérer des gens qui n'étaient pas forcément dans leurs écrans radars. C'est bien ça toute la difficulté. Donc je pense que la menace n'est pas moins élevée, elle est plus diffuse et elle risque de durer quelques années.
Diffuse et donc plus dure à combattre.
Tout à fait.
On va évoquer le sort de ce qu'on appelle les revenants. Oui. Hein, c'est un sujet aussi très sensible. On a appris hier la condamnation à mort d'une Allemande djihadiste en Irak. On l'a appris dimanche. Mmh. C'est la première femme européenne condamnée, en l'occurrence, à la pendaison. Elle avait quitté son pays pour la Syrie, puis l'Irak, avec ses deux filles, qui d'ailleurs se sont mariées à des combattants de l'EI. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des profils tout à fait semblables de Françaises dans les geôles irakiennes ? qui attendent leur procès et peut-être leur condamnation à mort.
Je pense que, en ce qui concerne les profils, aussi bien d'hommes que de femmes, on n'a pas de profil type. Et pour répondre à votre question spécifique sur les femmes, on a aujourd'hui en Irak ou en Syrie des femmes au profil très divers. Ça va, pour reprendre certaines expressions de collègues, de l'écervelé manipulé à la djihadiste convaincue. Donc on peut retrouver absolument tous les profils. Et on peut avoir des gens, effectivement, qui sont radicalisés très vite et qui n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup de convictions. On a des gens qui sont aussi très endurcis. Donc il faut, je pense, avoir une approche assez prudente sur ce phénomène-là.
Combien de Français, de Françaises attendent d'être jugés?
Je ne vous dirai pas un chiffre précis. Capturer, on va dire, quelques dizaines.
Quelques dizaines, voilà. Moins d'une centaine, moins,
oui,
d'une cinquantaine.
Moins d'une centaine.
Moins d'une cinquantaine, il y a des enfants parmi eux?
Il y a des hommes, des femmes et des enfants, effectivement.
Des mineurs parfois très jeunes,
oui,
dans,
oui,
les geôles irakiennes, oui, qui attendent aussi leur procès.
Des mineurs dans les geôles irakiennes, j'en sais rien. Ça, je ne le sais pas.
Oui. Mais je parle des prisons. Combien de Français et de Françaises sont en prison aujourd'hui en Irak?
Je vous dis quelques dizaines.
Quelques dizaines, et il faut
bien faire la part des choses entre ceux qui sont effectivement en prison et ceux qui sont dans des camps placés sous la garde de certaines personnes.
Des autorités
ou des autorités locales.
D'accord. Il y en a plus en prison que dans ces camps?
J'en sais rien.
On ne sait pas.
Je ne peux pas vous donner de précision.
Est-ce que l'on sait s'ils risquent la peine capitale?
Mais écoutez, ça dépend effectivement de la législation des pays dans lesquels ils se trouvent. On sait qu'en Irak existe la peine de mort.
Bien sûr.
C'est un pays avec un gouvernement qui est légitime, qui exerce donc sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et qui a toute légitimité pour mettre en œuvre les peines de sa législation. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est une situation qui est compliquée, tout ça, parce que il faut essayer de l'appréhender dans le respect des règles du droit international et du droit. Et la situation en réalité est très différente en Irak et en Syrie. En Syrie, en Irak, vous avez un gouvernement légitime avec lequel, comme en Syrie, il n'y a pas entre la France et ce pays de convention d'extradition et de convention d'entraide pénale. Donc c'est du cas par cas, dossier par dossier. L'Irak étant un pays avec un gouvernement légitime, a tout à fait le droit de décider, soit de juger lui-même des gens qui auraient commis des infractions sur son sol, soit de les remettre au pays de sa nationalité. En Syrie, c'est différent. En Syrie, c'est différent parce que vous avez des Français détenus par des organisations kurdes ou l'armée syrienne libre, donc qui sont des factions opposées au gouvernement, hein, qui n'ont pas, j'allais dire, une autorité légitime, puisque c'est le gouvernement de Bachar el-Assad qui l'a là-bas. Et donc, la situation est plus complexe, d'autant que la France n'a pas de représentation diplomatique et consulaire là-bas.
Vous disiez tout à l'heure, nous disiez, il y a des Français et des Françaises, oui, qui, ça va de l'écervelé manipulé, en l'occurrence les femmes, à la combattante, oui, vraiment convaincue. On dit qu'une Française est en attente d'un procès en Irak, oui, et donc elle est susceptible d'être condamnée à mort de la même façon, ou remise aux autorités françaises si l'Irak le décide. Dans les deux cas. Est-ce que Paris, dans ces cas-là, prendrait une initiative pour réclamer le retour de cette femme?
C'est votre question renvoie à un point qui ne relève pas de la compétence du procureur de Paris. Je pense que le gouvernement français fait tout ce qu'il peut pour effectivement assurer la protection sur le plan consulaire de ces personnes et faire en sorte qu'ils puissent effectivement exercer leurs droits.
Et cette femme, vous souhaiteriez l'entendre?
Je pense
dans
tout
les
ça,
fonctions qui sont
ça,
les vôtres.
Bien sûr, puisqu'il y a des mandats d'arrêt, des mandats de recherche qui ont été décernés contre ces gens-là. Maintenant, il faut peut-être aussi retourner la question. Est-ce que si on avait, nous, Français, des terroristes étrangers qui viennent commettre des exactions et des attentats terroristes sur notre sol, est-ce qu'on ne souhaiterait pas les juger?
Et donc vous dites...
La question, effectivement, renvoie au fait que le pays sur lequel ces gens ont commis des exactions ou des attentats ont eux aussi un droit légitime de les juger. Donc si ces personnes qui ont été arrêtées ont participé à une organisation terroriste et ont commis sur le sol irakien et syrien des infractions spécifiques, il faut se poser la question, effectivement, de savoir si l'État sur le territoire duquel ils les ont commis n'est pas légitime à les juger.
Et notre ministre des Armées, Mme Florence Parly, qu'on affirme une nouvelle fois n'avoir aucun état d'armes sur la situation de ces hommes et ces femmes. Vous partagez ces propos ou ce sentiment?
Moi, je suis magistrat, j'ai une obligation de réserve, donc j'ai un principe, je ne commente jamais les déclarations des hommes politiques et des membres du gouvernement.
Est-ce que vous demandez à aller interroger ces personnes sur place?
Oui. Puisque, enfin, La situation est très claire du point de vue de la justice. Ce sont des gens qui sont judiciarisés, qui font l'objet de procédures en enquête ou en information et qui, pour la totalité, font l'objet de mandats de recherche ou de mandats d'arrêt décernés par les juges d'instruction. Donc la justice a effectivement toute légitimité pour les récupérer, les juger en France. Mais encore une fois...
Mais juste aller les interroger avant qu'ils ne soient...
Ça, y a des
vous l'avez fait d'ailleurs,
Il y a des choses qui se passent, qui sont en train de se passer. Je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que...
Mais vous allez chercher des témoignages qui permettraient de faire avancer vos enquêtes sur les attentats en France auprès de ces Français qui sont soit dans des prisons, soit dans des camps.
Tout à fait.
C'est clair, ça.
C'est un peu compliqué, mais ça se fait.
Mais ça se fait, avec la coopération des autorités irakiennes. Il n'y a aucun obstacle qui est mis sur ce sujet. Donc, il y a des enquêteurs français, éventuellement, en ce moment.
Il y a des possibilités d'envoyer des enquêteurs français.
Ça fait avancer vos enquêtes, de fait ? Vous avez des éléments qui ont permis de...
Je
ne
veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais on peut obtenir des éléments intéressants pour faire avancer le contenu des dossiers.
Il y a des incertitudes aussi, François Molin, sur, c'est un peu technique, mais c'est important, sur les 40 adultes et français qui ont été arrêtés par les forces kurdes en Syrie. Oui. Des avocats ont porté plainte pour détention arbitraire. Ils estiment que Paris, en gros, s'en débarrasse en les faisant juger sur place, alors que le Kurdistan syrien n'a pas vraiment d'existence légale.
40 adultes et 20 enfants.
Voilà. D'abord, ils sont tous recherchés par la France, ces 40... Français, Françaises et 20 enfants
ou pas ? Ils sont effectivement connus. Ce que je vous disais tout à l'heure, la situation en Syrie est complexe. Oui. On n'a pas de convention d'entraide et d'extradition avec la Syrie. La France n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire en Syrie. Donc elle ne peut pas agir directement, mais que par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Ces personnes sont des gens qui sont allés là-bas, rejoindre des organisations terroristes qui ont commis des exactions contre les populations civiles et qui ont rejoint une organisation terroriste qui a appelé au djihad armé contre la France. Donc là aussi, la différence, la situation est un peu différente de l'Irak, puisque effectivement, il y a une autorité de fait exercée par les Kurdes et l'armée syrienne libre. Ils ont été arrêtés, ces gens-là, dans le cadre d'un conflit armé. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est la guerre,
dans une situation de guerre, un conflit armé non international, un cani, comme on dit, qui oppose un État.
Cani.
Oui, un conflit armé non international, qui oppose un État à des groupes armés. Donc la situation est peut-être un petit peu compliquée. Alors pour répondre à votre question, cette plainte, on a deux plaintes qu'on a reçues au parquet, deux d'ailleurs, pas une.
Les avocats.
Elles sont en cours d'analyse parce qu'elles posent un certain nombre de difficultés, donc elles sont en cours d'analyse et on répondra prochainement aux avocats.
Vous avez insisté sur les familles dans votre discours. La problématique des femmes est particulière, avec vous. Pourquoi ? Et est-ce que des indices prouvent qu'elles sont encouragées au djihad ?
On a longtemps cru que les femmes étaient cantonnées à des tâches ménagères en Irak ou en Syrie, et notre position a beaucoup évolué.
Ce n'est plus vrai.
On se rend compte au fil des informations qui sont les nôtres qu'elles ont en réalité pu être occupées et impliquées dans des activités opérationnelles, et elles ont pu aussi on a pu leur apprendre aussi à manier des armes. Et surtout, ce qui nous trouble, c'est qu'il y a une inflexion idéologique de la part de Daesh depuis quelques mois, puisque la doctrine classique de Daesh était de dire que le djihad armé était réservé aux hommes. Or, il y a eu une inflexion idéologique sur ce point
récente,
à la fin de l'été,
à la fin de cet été 2017.
Puisque à deux ou trois reprises, des organes officiels régionaux ou plus larges, plus représentatifs de Daesh, ont appelé les femmes et les enfants à participer au djihad armé. Ce qui fait
c'est nouveau.
Il n'est pas exclu, je dis bien il n'est pas exclu, qu'on puisse avoir des participations de femmes et de mineurs à des activités combattantes. C'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a plusieurs mois. Ça incite bien sûr à la prudence et à être particulièrement vigilant sur la radicalité et la dangerosité de ces personnes.
Ça traduit une fuite en avant de Daesh ou ça traduit une structure qui en fait est tellement aujourd'hui remise en cause ou abîmée qu'elle demande aux enfants et aux femmes de rentrer dans le combat ?
Les deux. Je pense que ça traduit un délitement et effectivement, la fin de l'histoire sur le plan militaire pour cette organisation terroriste.
Vous dites qu'il faut cesser, s'il y en avait eu une forme d'angélisme alors à l'égard de peut-être ces femmes, peut-être même ces enfants qui sont sur place et qui reviennent.
Sur les enfants, tout dépend de l'âge. Je pense effectivement, nous on judiciarise de toute façon à partir de 13 ans. Au-dessus de 13 ans, dès lors qu'on est confronté à des mineurs qui ont eu des activités opérationnelles et combattantes, ça se traduit par des mandats qui sont décernés. En dessous, on est essentiellement dans des réponses d'ordre éducatif, avec la nécessité de prendre ces enfants en charge. Et je pense d'ailleurs que ça sera l'un des gros enjeux des années à venir, d'assurer une prise en charge suffisamment spécifique et qui soit suffisamment en long cours pour qu'on s'assure que ces petits, qui sont peut-être un peu des bombes à retardement compte tenu de tout ce qu'elles ont vu, soient véritablement éduqués et traités comme il faut pour, j'allais dire, retrouver un semblant de normalité.
Vous nous annoncez un long travail auprès de ces enfants.
Bombes à retardement, ça veut dire...
Je pense que c'est un véritable enjeu pour les années à venir et qu'il faut absolument innover, inventer des dispositifs de prise en charge qui soient pluriels, qui se traduisent par un vrai partage de l'information.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les témoignages que vous recueillez
Les témoignages qu'on recueille montrent que ce sont des gamins, souvent petits, qui ont vécu dans des conditions qui ne sont pas normales, j'assume mes termes, pour un enfant de ces âges-là, où il y a des valeurs qui sont tout à fait différentes de celles qu'on a aujourd'hui dans les sociétés occidentales.
Pouvez nous dire concrètement
des enfants qui peuvent être amenés par leurs parents pour assister à des décapitations, qui voient des armes à la maison tous les jours, qui vivent sur des valeurs non-tolérantes,
antidémocratiques,
anti-tout, ça marque forcément les choses et les esprits.
Combien d'hommes, d'enfants et de femmes sont revenus de la zone irako-syrienne à ce stade ?
Depuis le début du conflit, un tout petit peu moins de 180, on en a eu 23 sur l'année 2017 et deux depuis le début de l'année 2018.
Deux hommes, femmes, enfants ?
Je crois que c'est des hommes.
Ce sont deux hommes. Ouais. Que vous apprennent leurs témoignages au retour ?
Je vous disais qu'il y a des situations très diverses. Le témoignage, dans la forme, c'est toujours celui d'une personne qui a perdu ses illusions vis-à-vis de Daesh. Et qui, en fait, veut revenir en France parce que la situation là-bas, je pense, est tellement différente de celle qui avait été promise et qui avait attiré autant de candidats djihadistes, effectivement, qu'ils disent avoir compris, avoir perdu leurs illusions et revenir chez eux, comme ils disent, même s'ils savent qu'en général, ils font l'objet de mandats et qu'ils ont de fortes chances de se retrouver en prison. Toute la difficulté derrière ce discours, c'est effectivement, compte tenu des techniques de dissimulation, de savoir si derrière ces regrets et ces désillusions, est-ce qu'ils ont gardé ou est-ce qu'ils ont perdu leur convictions djihadistes. Et c'est ça qu'il faut effectivement s'attacher à faire pour essayer de protéger la société.
Et là, vous aviez dit déjà en novembre, je me souviens, attention, derrière la nostalgie, il y a très peu de repentir. Vous maintenez cela ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut bien se garder de toute naïveté, de tout angélisme et ne pas se perdre dans des discours. L'interview qui a été diffusée dimanche soir sur la télévision française, je pense, moi, m'a laissé très perplexe quant au degré de sincérité des personnes que j'ai entendues.
Oui, il y a très peu de repentir, de vrai repentir qu'on peut mesurer, sur lequel on peut s'appuyer pour les traiter judiciairement.
Je pense qu'il y en a, et c'est toute la difficulté, effectivement, de faire la part des choses entre ceux qui ont vraiment compris et qui veulent se réinsérer dans la société française, parce que je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns, et ceux qui, effectivement, au-delà des regrets, ont gardé leurs convictions.
Nous avons un grand débat en ce moment concernant la façon dont ils doivent ou non être regroupés en prison. Vous, en tant que professionnel de ces questions, est-ce que vous dites, c'est radicalisé, ils doivent être dans des prisons spécifiques et ensemble. Est-ce que vous avez un avis sur la question ?
D'abord, je voudrais dire que rendre hommage là-dessus au personnel pénitentiaire qui sont en première ligne et qui font un travail qui est très difficile dans un contexte d'un climat de tension psychologique extrême, je pense qu'il faut être très modeste dans l'appréhension de ce problème, dans la mesure où quand on tourne son regard vers l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a des solutions très différentes et il n'y a pas de solution miracle. Donc il y a en France un travail, je pense, de qualité qui est fait, qui a été recadré dernièrement. Il y a des quartiers d'évaluation dans lesquels ces détenus passent pour évaluer leur comportement, leur personnalité.
Il y en a combien sur 500 radicalisés qui sont passés par ces évaluations ?
Il faut demander les chiffres précis au ministère de la Justice parce que ça ne relève pas du parquet de Paris.
Il y a bien 500 radicalisés dans les prisons.
504 détenus terroristes islamistes en prison en ce moment. Donc on les fait passer dans ces quartiers et au vu du comportement et de leur personnalité, on les affecte dans des établissements avec des conditions de sécurité qui sont les plus adaptées aux problèmes posés. Donc c'est un travail de fond. long, qui va durer. Et je pense que c'est effectivement un autre type de menace. Ça renvoie à ce que vous disiez au début. C'est une sorte d'incubateur aujourd'hui, le milieu pénitentiaire, pour ça. Et il faut vraiment... c'est un enjeu, parce que ces gens-là sont en prison. Un jour, ils en sortiront. Et là aussi, il faut bien les jauger et pouvoir amorcer un suivi lorsqu'ils n'y seront plus.
François Molins, votre avenir nous intéresse. Et Elisabeth va vous interroger là-dessus.
Votre avenir nous intéresse. D'abord, vos services des ménages. On l'a dit, vous êtes au palais de justice depuis combien de temps ? Des siècles et des siècles ?
Des siècles et des siècles, effectivement.
Je sais pas, des milliers d'années, presque.
Vous allez changer d'habitude.
N'exagérons rien. Mais oui, vous allez changer d'habitude et vous allez peut-être changer aussi d'organisation de travail. Et qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur vos services déménagement ? Quitter le cœur de Paris, ce palais de justice mythique pour aller dans des bureaux tout neufs?
Ça va changer beaucoup de choses parce que l'immobilier, il est porteur et structurant. On va avoir un très bel outil, un outil de très belle qualité, et cet outil va nous permettre de revisiter certaines pratiques qui n'étaient pas tout à fait adaptées à la qualité de la justice, parce que les lieux où on était sont chargés d'histoire, mais ils n'étaient pas vraiment fonctionnels. Donc on va profiter de ce déménagement pour parfaire nos organisations et faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien palais de justice. On va, par exemple, moderniser nos procédures de plaidé coupable. On va revoir toute l'organisation des délégués du procureur et des alternatives aux poursuites. On va créer des synergies entre les sections.
On vous donne un bel outil, pour dire les choses simplement.
Oui, un très très bel outil. Et je pense que cet outil, maintenant, notre devoir, c'est d'en faire quelque chose et de tirer les choses vers le haut.
Alors, un autre bel outil, effectivement, c'est le parquet national antiterroriste, vous nous avez vu venir, avec nos gros sabots, dont la création a été annoncée par Madame Belloubet, la garde des Sceaux. Pour dire les choses rapidement, vous étiez à l'origine plutôt contre ce service dédié, et puis finalement, vous êtes rallié à cette idée, à condition que le périmètre soit plus étendu que simplement l'antiterrorisme, par exemple la cybercriminalité. François Molins, c'est un poste qui vous intéresse ?
J'ai jamais changé d'idée là-dessus. J'ai toujours dit que le projet qui consistait à prendre les effectifs de l'antiterrorisme pour en faire un parquet antiterroriste, ça n'avait pas de sens. Par contre, un projet qui consiste à être plus ambitieux, à avoir une vision beaucoup plus globale, peut avoir du sens. Notre cadre juridique a 30 ans. La menace va évoluer. Elle va durer plusieurs années, elle sera plus diffuse, elle sera plus dure à déceler. Et il y a aussi aujourd'hui un réseau à animer entre les procureurs locaux et le parquet de Paris. Donc cette réforme, je pense, elle a du sens, mais il faut qu'elle soit globale et ambitieuse. C'est-à-dire, je pense que si ça se fait, il faut que ça porte sur le terrorisme, mais aussi sur les contentieux limitrophes. Et puis il faudra voir aussi comment ça s'inscrit dans l'organisation.
Mais il faudra quelqu'un pour incarner.
Voilà, Donc, si vous êtes pressenti, vous dites oui.
Moi, ça dépendra du projet.
Vous n'êtes pas contre ?
Je suis pas contre du tout. Je dis que c'est un projet qui a du sens suivant comment il est construit, suivant son contenu et suivant son inscription à l'organisation judiciaire. Après, moi, au poste où je suis magistrat.
On dit que vous avez le profil pour tout dire, que vous avez tellement prouvé que
tout le monde en est convaincu.
Vous êtes adapté.
Moi, je suis au service de la justice de la République. Mon avenir m'appartient pas complètement.
Donc, si on vous propose, vous accepterez.
Si c'est intéressant, ça peut m'intéresser. Voilà.
Alors on vous reverra ici, on espère, ou d'ailleurs dans nos prochains aussi studios. Merci beaucoup François Molins d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
Et bien entendu, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Très bonne journée à vous, Monsieur Molins.